Rendez-vous 1. Londres, vendredi 8 septembre 1944. La mort arriva à vitesse supersonique. La fusée s'écrasa sur Londres à 18h43. De la mansarde qu'elle louait, Cassandra entendit une double détonation. La première lorsque l'engin franchit le mur du son, la seconde lors de la déflagration qui suivit. Le message de Berlin lui parvint aussitôt. Elle le déchiffra sur l'appareil Klamotten. « Ai besoin des coordonnées de l'explosion de gaz. Information contradictoire. Accomplir rendez-vous 1. » Elle relut le message. Voilà, c'était parti. « Explosion de gaz » était le nom de code désignant une frappe de fusée. Depuis que la Luftwaffe avait commencé à lancer des bombes volantes à la mi-juin, Cassandra travaillait nuit et jour à la localisation de leur point de chute. Cependant, il s'agissait là de tout autre chose que de V1, ou Doodlebugs, comme les Britanniques les surnommaient. Ce nouveau V2, on ne pouvait pas s'en protéger. Plus rapide que le son, on l'entendait seulement une fois qu'il avait atterri. La mission de Cassandra était de guider le feu, l'avait instruite Berlin avant son départ. Trouver le point d'impact était essentiel pour améliorer la précision des futures attaques. Pour mettre la Grande-Bretagne à genoux et faire remporter la guerre à l'Allemagne. Le problème était rendez-vous 1. Ce vieux message codé de l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand, signifiait que, le jour de réception, Cassandra devait se rendre à Soho pour retrouver à 21h un autre agent allemand à l'angle de Coventry Street et de Rupert Street. Si l'un ou l'autre d'entre eux avait un empêchement, la même procédure devait être répétée 12 heures plus tard. Cassandra avait survécu parce qu'elle faisait profil bas. Londres était une métropole, il y était impossible de contrôler tout le monde. La clé, c'était de conserver son anonymat. Or, celui-ci était désormais menacé. Pourquoi les gens du renseignement de Berlin activaient-ils le code aujourd'hui? Que signifiait « information contradictoire » Elle rangea sa petite mansarde, posa les tasses à thé sur un plateau rond en bois, mit la literie en ordre. La première chose à faire était de voir son officier traitant, le seul en qui elle ait confiance. Si quelqu'un savait pourquoi rendez-vous 1 était mis en œuvre, c'était lui. Dans la salle de bain, elle revêtit un chemisier blanc, un cardigan en laine d'agneau et un blouson en daim bleu. Elle s'examina dans le miroir. Elle avait le teint blême. Londres exerçait cet effet sur les gens. Dans l'appartement du rez-de-chaussée, elle entendait Mrs. Hurst, la logeuse, s'adresser avec émotion à son voisin. Tout le monde avait entendu la déflagration. Personne ne savait à quoi elle était due, ni d'où elle venait. La ville devait frémir de rumeurs. La bataille d'Angleterre était-elle entrée dans une nouvelle phase? Cassandra sentit que l'automne approchait. Les arbres battus par les vents se découpaient sur le ciel. Elle se glissa dans une cabine téléphonique pour appeler son officier traitant et convint en mots codés de le retrouver à l'endroit décidé. Il eut un instant de stupéfaction en apprenant qu'il s'agissait de rendez-vous 1. Elle prit le métro à Hammersmith, direction Est, et descendit à Leicester Square. Le wagon était dans le noir, comme à Berlin. Ce n'était pas pour lui déplaire. Le quai de la ligne Piccadilly, direction nord, n'était pas très peuplé. Des soldats en uniforme, des infirmières et des bénévoles du FANI, une organisation caritative britannique exclusivement féminine, rentrant chez elle, une bande de jeunes hommes bruyants qui flirtaient avec des jeunes femmes acnéiques et trop maquillées. Pas assez de monde pour risquer d'être entendu, mais suffisamment pour que personne ne s'étonne de les voir s'asseoir sur le même banc. Parfait. L'officier traitant l'attendait comme prévu sur le banc, le plus éloigné, avant le tunnel. Il tenait devant lui un exemplaire du Times, et elle distinguait seulement son chapeau au-dessus du journal. Munie d'un Daily Mirror, elle s'assit à côté de lui. « Rendez-vous 1, alors » fit-il tout bas, alors que les murs vibraient faiblement sous le roulement d'un train traversant un tunnel au-dessous d'eux. « Ils disent qu'il s'agit d'informations contradictoires et des coordonnées du point de chute. » Cassandra contempla la voie ferrée. Son regard n'avait pas encore croisé celui de l'officier traitant. « Il s'agit d'Otto », affirma-t-il. « Ce ne peut être personne d'autre. » Il communiquait en anglais par mesure de précaution. « L'agent Otto ». Une légende des services secrets allemands. L'homme le plus talentueux dont Berlin disposait en Grande-Bretagne. Un opérateur qui prenait des précautions extrêmes dans son travail. Contrairement à d'autres, il n'envoyait jamais de message par radiotransmetteur. Tous ses renseignements étaient transportés par agent de liaison vers un pays neutre, avant d'être acheminé à Berlin. Que fabriquait-il? Il se pourrait que nos ennemis cherchent à nous atteindre au moyen de fausses informations sur l'impact des fusées, articula lentement l'homme. L'agent Otto a pu rejoindre leur rang. Rends-toi à son appartement pour découvrir ce qu'il sait. Si cela contredit tes conclusions, il faudra le neutraliser. Je n'ai pas les coordonnées du point de chute et je ne sais pas où il habite. L'officier traitant sortit de sa poche un jeu de clés et le fit cliqueter. Une attache en plastique est fixée à cet anneau. Sur le papier à l'intérieur sont inscrites les coordonnées cartographiques à envoyer à Berlin. 51.505.273-0.010.910. Lut Cassandra. Ces clés sont celles de l'appartement d'Otto. La plus petite ouvre la porte de service qui donne sur la cuisine. L'adresse est 17 Finsbury Park Road. Premier étage, c'est la seule porte. Métro pour Finsbury Park. Ensuite, c'est à trois pâtés de maison au nord-est. Mémorise-le.
Et s'il est chez lui ?
Sous le journal, apparut une montre de sport. Otto n'est pas chez lui, il est près de 20h. D'ici ton arrivée, il sera parti pour un rendez-vous avec toi. Cassandra agita le porte-clés. Une cordelette munie d'un nœud coulant y était attachée. Clé, information et armes, le tout réuni en un dispositif inoffensif. Elle devait admettre que c'était efficace. Le train déboucha dans la station. « Vas-y, c'est ton train. Bonne chance. » À l'intérieur de la rame qui filait vers le nord, elle tenta de visualiser les événements qui allaient se produire. Dans un monde idéal, elle aurait disposé de temps pour planifier son intervention. Elle aurait observé le domicile afin de repérer des voisins gênants et d'éliminer toute surprise désagréable avant de frapper. Mais le monde était tout, sauf idéal. Il était 20h40 lorsqu'elle s'engagea dans Finsbury Park Road. En chemin, elle avait effectué un travail de reconnaissance des échappatoires possibles. Bordé d'arbres bas, le trottoir longeait des jardinets où poussaient des arbres fruitiers. La rue était déserte. Cassandra avançait en essayant de se faire une idée de la situation et en se concentrant pour distinguer les numéros de rue en face. Bientôt, ses yeux s'accoutumèrent à l'obscurité et elle aperçut le 17. Elle passa son chemin. Du même côté se trouvait une maison écroulée. Les ruines de bombardement n'étaient pas une denrée rare à Londres. Au bout de la rue, Cassandra traversa et revint sur ses pas. Elle ouvrit la grille de la maison démolie. L'instant était critique, mais elle jugeait minime le risque que quelqu'un surveille fortuitement l'endroit. Elle entra et attendit, s'efforçant de déceler des mouvements anormaux dans la rue, aux fenêtres. Elle ne remarqua rien. Elle écouta sa propre respiration, rapide, mais pas incontrôlable. À l'affût, pas désespérée. 140, estima-t-elle, pas 170. Comme elle le pensait, l'arrière de la rangée de maisons mitoyennes était desservie par un jardin tel qu'on en voyait toujours derrière les maisons de briques britanniques. Elle se faufila le long de la façade en direction du numéro 17. Elle vit une bicyclette d'homme appuyée contre le mur à côté de la porte de service. Pas de cadenas. C'était parfait pour battre en retraite, à condition qu'elle parvienne à la sortir dans la rue. L'avenir le dirait. En guerre, il fallait être dégénéré pour élaborer des plans détaillés.